6h02, mercredi 23 juin. Bonne journée et bienvenue au 88,5. Pour les gens qui viennent de se réveiller, qui se sont couchés peut-être tôt hier, qui ne connaissent pas les détails de la victoire du Canadien, ben vous dire, un, que le Canadien a gagné. Un match remarquable. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu quand même des bons moments. Et donc, cette victoire du Canadien les amène à une seule victoire de la finale de la Coupe Stanley. Alors, hier, là, vraiment, ça a été un match, encore une fois, incroyable. Suzuki, Caulfield, Carey Price, extrêmement solide devant le filet. Alors, avec Alain, on va en reparler, bien sûr. Et aujourd'hui, on va aussi, plus tard dans l'émission, jaser avec Martin McGuire, Danny Dubé et notre ami Ron Fournier a également accepté de nous partager ses émotions et ses commentaires autour de 8h15. Bon, pour ce qui est de la météo, c'est une belle journée, c'est du soleil autour de 22 degrés. Demain, fête nationale, c'est du soleil 28. Et vendredi, on prévoit du temps nuageux, encore là, 28 degrés. Maintenant, pour la fin de semaine, là, ça commence les vacances pour bien des gens. Ça veut dire samedi, possiblement des averses 29, dimanche, la pluie. Donc, on a, à partir de samedi, 4 jours là, de temps gris, pas beaucoup de soleil et potentiel de précipitation. Tout ça pour commencer les vacances. Alors qu'au même moment, hier, on apprenait que tout le Québec, à compter de lundi, se retrouve en zone verte. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, par exemple, les rassemblements intérieurs vont pouvoir accueillir là, 10 personnes. À l'extérieur, c'est 20 personnes. Par exemple, c'était déjà connu là, pour aujourd'hui, les festivals extérieur, donc, il y aura la possibilité d'avoir jusqu'à 3500 personnes. Pour ce qui est des mariages, 250 personnes, mais pour la réception, c'est 25 invités à l'intérieur, 50 personnes pour l'extérieur. Il y a tous ces détails-là. Alors, ça veut dire qu'on peut recevoir des amis à souper à l'intérieur, à l'extérieur. Évidemment, là, on dit, ben, si vous avez déjà votre deuxième dose de vaccin, c'est plus nécessaire de porter le masque. Qu'est-ce qui reste? Bien, il reste un certain nombre de choses quand même, là. Notamment quand vous allez dans les magasins ou à travers, je ne sais pas, vos activités professionnelles, le port du masque qui est toujours, évidemment, imposé. Ce qu'a fait dire hier à Dr Arruda et au premier ministre Legault qu'on se retrouve maintenant en mode moyen party. C'est pas, comme on dit, la reprise totale des activités sans contrainte, là, où on peut se ramasser 20 000 au Centre Bell, ou encore on fait un méga party à 200 à l'extérieur, puis qu'on danse, puis qu'on chante, puis on n'est pas rendu là. Mais en parallèle, la vaccination se déroule bien, sauf dans le cas de jeunes adultes. En fait, il y a comme deux préoccupations. D'abord, les jeunes adultes qui sont en bas en termes de gens vaccinés et de gens inscrits là, pour un rendez-vous. Et on parle essentiellement des, mettons, 18-35 ans, là, qui sont soit réticents, soit négligents, ne voient pas que c'est nécessaire. Et pourtant, ce sont eux qui sont très actifs, normalement, qui ont beaucoup de contacts et qui auraient intérêt à se faire vacciner. Alors là, ils vont développer des stratégies pour la vaccination. Et deux endroits où on est en bas, parce qu'on est presque à 80 % là, de Québécois ayant reçu au moins une première dose, Laval et Montréal. La directrice de la santé publique sera avec nous tantôt pour parler des difficultés. Parce que là, c'est clair qu'à Montréal, il y a des endroits où il y a des barrières linguistiques, des barrières culturelles, des craintes, des croyances. Tout ça mis ensemble amène, disons, une réticence à se faire vacciner. Puis je voyais aux États-Unis, il y a des bastions des États américains qui résistent à la vaccination. Vous avez, par exemple, là, je pense, 16 États américains qui ont atteint ce que Joe Biden souhaitait, c'est-à-dire 70 % des gens avec au moins une dose. C'est sûr qu'actuellement, là, à la grandeur du pays, vous avez plus qu'un Américain sur deux qui a obtenu les deux doses, là, qui est pleinement vacciné. Mais de façon géographique, il y a vraiment, vraiment des États où ça ne vaccine pas, ou en tout cas très peu. Et ça, ça préoccupe évidemment les gens de la santé publique aux États-Unis. Alors, voilà pour ce qui est du portrait de la vaccination. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a du Moderna qui va entrer. Pfizer, il y a moins de vaccins. Alors, on le sait, en pharmacie, c'est beaucoup de Moderna. Il y a même des pharmaciens, je le disais hier, qui prennent les devants puis qui écrivent à leurs patients, qui les rappellent. Et là, vous pouvez toujours tenter d'essayer de devancer votre deuxième dose. Mais tout ça avec l'objectif d'arriver à la fin de l'été, comme disait le Dr Weiss, où on a le trois quarts des gens avec deux doses, enfin des adultes principalement. Ça, c'est pour la vaccination. Je vais revenir sur la tornade qui a frappé à Mascouche. Les images et les témoignages sont absolument dévastateurs. Et dans ce corridor où la tornade a tout détruit, bien, vous retrouvez des gens qui ont vu leur maison toiture arrachée, l'intérieur endommagé. On m'a raconté l'histoire d'une opération de GoFundMe pour aider une jeune famille du coin qui est en autoconstruction et qui tentait évidemment de bâtir un peu la maison de leur rêve. Puis soudainement, bien, tout ça a complètement disparu. Et il y a une amie de la famille qui nous a écrit, qui est infirmière à l'hôpital Pierre-Legardeur. Et le couple en question a 4 enfants, puis ils ont perdu cette maison-là. Et puis en plus, c'est des gens dévoués qui travaillent fort. Alors les amis, les collègues, tout ça, tentent justement d'avoir cette opération pour les soutenir financièrement. Je vais vous en reparler tantôt. L'autre question qui est souvent posée, est-ce que c'est possible d'avoir des alertes dans le cas des tornades, disons, un peu plus vite? Et les gens d'Environnement Canada vous diront que c'est difficile quand on fait une alerte. Ben c'est parce que là, on vient de voir sur le radar la formation de la tornade et on n'a que très peu de temps pour aviser. Puis dans le cas de ce qui s'est passé avant-hier, ben ce qu'on a remarqué, c'est que dans la région de Québec, il y a eu des alertes plus vite que dans la région de Montréal. En tout cas, pour ce qui est de Mascouche. Et il y a des gens qui m'écrivent ce qu'on appelle des chasseurs de tornades qui me disent que... Ce qui est particulier, c'est que même si on est en mesure de voir des supercellules sur les radars, il y a quand même une gradation des alertes qui sont plutôt lentes. Et donc, ces chasseurs qui reprochent un peu Environnement Canada de ne pas avertir assez vite. Puis, tu sais, on leur reproche des fois de faire paniquer les gens pour rien, puis d'autres fois, on les accuse de ne pas être assez rapides. Et un qui m'écrit en disant que ça fait 17 ans qu'il est chasseur de tempêtes. Puis il faut savoir que dans le cas de l'Outaouais, Gatineau, qui est un secteur où il y a eu quand même un bon nombre de tornades, bien, c'est géré par le bureau de l'Ontario. Et on se demande pourquoi on n'est peut-être pas aussi efficace pour ce qui est du bureau de Montréal. C'est pas une accusation, c'est une question comme ça que je soumets à votre réflexion. Parlons du conflit de travail chez Exceldor. Alors, aujourd'hui, les parties sont convoquées chez Jean Boulay, le ministre du Travail. Je lisais dans la presse ce matin des témoignages anonymes de syndiqués qui disent que les poulets sont mieux traités qu'eux. Que, évidemment, ils ne veulent pas porter l'odieux de la catastrophe alimentaire, de ce gaspillage, mais que leurs conditions de travail au-delà des salaires sont absolument indécentes. Alors, on parle, quand il fait chaud, il fait chaud. Puis quand il fait froid, bien, ils sont dans des conditions qui ne sont pas acceptables. T'sais. Puis l'image qui est donnée dans ce que la presse rapporte, les patrons sont allés à climatiser, puis les poulets sont mieux traités, puis nous autres, on est dans une espèce de fournaise qui n'a pas d'allure. J'entends ça depuis le début de ce conflit-là. Que Exceldor n'est pas un très bon employeur. Là. Je sais que la responsable des ressources humaines brandit sondage de grande satisfaction. On peut l'interpréter, là. T'sais, 67 % d'employés satisfaits, c'est pas tant que ça non plus. Là. Je comprends que c'est une majorité, là. Mais ça veut dire qu'il y a de la grogne chez les syndiqués. Puis on peut peut-être comprendre ça. Ce qui n'a pas d'allure, c'est de gaspiller autant de nourriture, autant de poulet. Alors, est-ce que ça va aller vers une loi spéciale? Jean Boulay dit qu'il n'est pas rendu là. Est-ce qu'on va finalement se retrouver devant un arbitre, arrêter le conflit de travail, reprendre la production? Peut-être, mais en tout cas, une réunion aujourd'hui chez le ministre du Travail. On a reçu un communiqué ce matin là, qui confirme qu'à la FTQ, les membres, les syndiqués, ont approuvé l'entente de principe et dans une proportion de 94 %, ce qui n'est pas rien. Là. Alors, donc, ça veut dire que ça touche évidemment plusieurs secteurs, la santé, l'éducation. Alors, bonne nouvelle. Il reste quelques ententes à conclure, mais on n'est finalement pas si loin d'une entente globale là, pour... les négociations dans le secteur public. Ce matin, je lisais les propos du président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Montréal, Michel Leblanc. C'est une lettre qui est publiée dans la presse et qui dit qu'il est important de prévoir, de planifier le retour dans les tours à bureaux pour relancer le centre-ville. Alors, ils ont commandé un sondage léger. 53 % des travailleurs ont hâte de retourner sur leur lieu de travail. L'importance de retrouver leur équipe au complet, l'envie de vivre des moments de socialisation et aussi la possibilité de participer à des échanges collaboratifs. 67 % des travailleurs du centre-ville sont à l'aise avec l'idée de revenir travailler au bureau quand le gouvernement va le permettre. Et 62 % des gens ont bon espoir que les transports en commun seront sécuritaires au cours des prochains mois. Parfait. Là, la vraie question, c'est, OK, les gens veulent revenir, mais est-ce qu'ils veulent revenir une journée par semaine, deux jours par semaine, cinq jours par semaine, l'ancien modèle, ou tenter une formule hybride? Une majorité de travailleurs sont satisfaits de leur expérience de télétravail et que cette forme, ben, c'est là pour rester. Évidemment, il y a plusieurs facteurs. Le temps sauvé en termes de déplacement, ce qui fait que, je vous dirais, à peu près 55 % là, des travailleurs souhaitent revenir au bureau deux ou trois jours par semaine, puis il y a à peu près 20 % qui aimeraient ça revenir quatre jours par semaine. Alors, c'est terminé la navette permanente, en tout cas dans le souhait là, des employés. Je comprends qu'il y en a qui ont hâte de se voir après plus de quoi 16 mois, 17 mois à distance. On fait quoi en septembre? On retourne au bureau? C'est quoi la fréquence? Qu'est-ce qui est gérable pour l'employeur? Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Puis à chaque fois, je fais une tribune téléphonique, puis c'est pas scientifique. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, c'est pas vrai que je vais me budgéter là, une quinzaine d'heures ou une vingtaine d'heures par semaine de déplacement. Et que ce soit en auto, là, ou que ce soit par le billet du transport en commun. Alors, vous pourrez lire ça ce matin. En même temps, dans la presse, le nombre de plaintes reçues par l'Office québécois de la langue française a augmenté de 50 % au cours des deux dernières années. La majorité, évidemment, des plaintes touche Montréal. C'est assez prévisible. Et on donne des exemples de plaintes et de condamnations. Le marché Foutaille dans Côte-des-Neiges, coupable d'avoir mis en vente plusieurs produits dont les inscriptions n'étaient pas rédigées en français. Vous avez le pub Winston Churchill sur Crescent, qui fait partie des entreprises qui ne respectent pas les règles de francisation. Il y en a un paquet comme ça, donc d'afficher dans une autre langue que le français. Et c'est clair que ce sont des gens qui passent, qui remarquent et qui décident comme ça de porter plainte. Alors, c'est dans la presse que vous allez retrouver. Il y a cette enquête du coroner qui se déroule au sujet de la mort des bénéficiaires du centre de soins de longue durée, Sainte-Dorothée. Et vous savez que j'ai toujours pensé qu'une commission d'enquête publique était nécessaire avec des moyens, des outils, au-delà d'une enquête de la commissaire à la santé que je respecte, là, ou de la coroner, mais c'est pas la même affaire. Puis je comprends que le gouvernement veut pas se faire éclabousser à un peu plus d'un an là, d'une élection, parce que ce qu'on entend devant la coroner Guéane Kamel sur ce qui s'est passé dans ce centre et dans d'autres. Puis hier, c'était la CSN qui témoignait, qui parlait du nombre élevé de décès à Sainte-Dorothée en raison de la mauvaise gestion. Puis c'est toujours la même chose. C'était prévisible, c'était écrit dans le ciel. Le manque de personnel était criant. Puis quand la COVID est arrivée, on n'était pas prêt, on n'était pas équipé. La crise avait été pensée en fonction des hôpitaux. Mais ça passe entre les nouvelles, parce que, moi, je vous dirais, il y a plein d'autres trucs. Puis je pense qu'une commission d'enquête publique, je vous dirais même télévisée, ça serait normal. Puis, en quelque part aussi, je pense, ça ferait du bien aux familles qui ont perdu quelqu'un, un proche, là, dans ces circonstances. Parce que c'est pas juste la COVID, là. C'est la malnutrition. C'est mourir de soif dans certains cas, puis surtout mourir abandonné. Ce qui est une catastrophe, ce qui est une honte nationale. On va fêter la fête nationale demain, là. Bien, ça, c'est une honte nationale. Puis on fait une, deux, trois, quatre enquêtes avec trois, quatre rapports, avec pas nécessairement l'ampleur, je pense, qui serait méritée. Également, on va vous parler tantôt de Paul Bernardo, ce tueur qui est aujourd'hui âgé de 56 ans Et Bernardo, on le sait, est non seulement un tueur, mais c'est un violeur en série, avec Carla Homolka. Il avait tué et martyrisé deux jeunes femmes. D'ailleurs, les familles des deux victimes, Leslie Mahaffey et Kristen French, ont assisté à la comparution. Bernardo est en prison depuis 28 ans. Denis Galland est avec nous tantôt pour essayer de comprendre les façons de faire des services correctionnels. Et c'est la deuxième fois que Bernardo demande une libération. Et la commission a décidé que non, qu'il était pour demeurer en prison, considérant qu'il n'a pas fait le travail nécessaire pour avoir, disons, la prétention de dire qu'il est capable de combattre ses démons. Il parle d'une médication, il parle qu'il reconnaît ce qu'il a fait, que c'est horrible, mais en même temps, les gens le regardent aller et disent « ce gars-là ne peut pas sortir parce qu'il demeure un danger potentiel ». Aussi, ce matin, je vais vous parler de ce cas concernant quelqu'un qui avait une cigarette électronique au volant. Vous trouvez ça intéressant? C'est dans la presse que vous retrouvez ça. C'est un Montréalais qui a été arrêté par la police. La police pensait qu'il y avait un cellulaire. Bon, on comprend que le cellulaire est interdit au volant. Et c'est un jugement qui a été rendu à la cour municipale à la mi-juin. Le gars en question s'appelle Jean-Maxime Nicolo. Il conduit sur le boulevard Crémazie. Ça se passe en 2018. Là. Ça vous montre un peu la lenteur du système, mais bon. Alors, il a dit, ben non, j'ai pas un cellulaire. Là. C'est ma vapoteuse. C'est ma cigarette électronique. Et là, il a commencé à décrire. Et le juge a dit que même une vapoteuse peut être une distraction au volant si elle a un écran lumineux, qu'il y a des informations, des boutons de réglage, et le code de sécurité routière interdit aussi de faire usage d'objets comme ça qui ont des écrans, à part quelques exceptions. Et alors, il ne s'agit pas de regarder, c'est important, là, c'est pas juste de regarder votre téléphone quand la police vous intercepte, mais c'est carrément de l'avoir entre les mains. Et c'est le fait de faire l'usage de l'appareil qui constitue l'infraction. Alors, peut-être en dire un mot à quelqu'un que vous connaissez qui, comme ça, utilise la cigarette électronique, ça peut peut-être vous joindre tôt. Maintenant, il y a le fou qui n'arrêtait pas d'écœurer la sœur d'Eugénie Bouchard, Charlotte, qui finalement, là, celui qui avait mis 1800 commentaires sur le web. C'est le genre de personne qui harcèle, qui n'a pas de vie, puis qui a besoin d'amour, puis qui s'ennuie, visiblement. Alors, pendant un an et demi, Danny Arsenault, 42 ans, s'est caché derrière des pseudonymes pour harceler Charlotte Bouchard. Tout ça pour, paraît-il, la séduire. Là, je ne vous parle pas de ceux qui envoient des insultes puis des caractères haineux. Alors donc, il a été déclaré coupable de l'avoir harcelé. Et on sait que, dans le cas de Mme Bouchard, évidemment, la cause est rendue devant les tribunaux, mais il y a d'autres dossiers. On a parlé abondamment des cas de harcèlement. Il y a aussi Ali Nestor, qui s'est retrouvé face à la justice hier. Il va revenir devant le tribunal à l'automne. Il fait face à des accusations sérieuses là, d'assaut sexuel et également donc d'agression, voie de fait, pour des événements qui se sont passés entre le 27 janvier 2018 et le 1er décembre 2020. On sait qu'il avait été recruté par le candidat Denis Coderre pour jouer un rôle de pivot dans le domaine de la sécurité publique. Puis la même journée, on apprend qu'il y a donc des accusations. Alors hier, c'était la comparution. Et rumeur d'élection, on en a parlé hier avec Bernard. C'est comme si la machine fédérale se préparait peut-être pour un déclenchement d'élection à la fin du mois d'août. Donc, scrutin fédéral au début de l'automne. Ça fait partie des rumeurs en terminant. Et aujourd'hui, vous surveillez une histoire assez incroyable. Britney Spears, la chanteuse, qui se retrouve devant le tribunal parce qu'elle veut reprendre le contrôle sur sa vie. C'est son père, avec des avocats comptables, là, qui gère non seulement sa fortune, mais sa vie. Elle a à se soumettre. Et quand vous lisez les détails, et elle-même va se faire entendre, là, elle ne peut pas choisir avec qui elle sort. Elle ne peut pas choisir la couleur de ses meubles ou la texture de ses meubles. Tout passe par ce comité. Son père reçoit 16 000 $ par mois, plus une cote sur les ventes de disques, les billets de spectacle de sa fille. Elle dit « Mon père est un control freak total et là, je suis tanné. Oui, j'ai eu des problèmes de consommation, des problèmes de dépression, mais c'est mon argent, c'est ma vie, puis je veux maintenant la gérer. » Alors, une cause qui va être intéressante à suivre. 6h23 minutes. Allons-y avec le Pont Mercier.